Europe Soir Weekend,
Céline Géraud.
Allez, Europe Soir Weekend, l'aventure continue jusqu'à 20h, décryptage de l'actualité avec au sommaire de cette prochaine demi-heure, eh bien l'Ukraine. 108e jour de conflit, la présidence française annonce qu'elle va apporter son aide pour débloquer le port d'Odessa et permettre l'acheminement des céréales vers le continent africain et le Moyen-Orient. Nous ferons le point sur la stratégie diplomatique française. L'ex-président Donald Trump présumé responsable de tentative de coup d'État le 6 janvier 2021, date de l'assaut vers le Capitole à Washington. Le vocabulaire n'est-il pas trop fort? Mais tout de suite, nous allons revenir ensemble sur le procès des attentats du 13 novembre. La perpétuité incompressible requise contre Salah Abdeslam par le parquet national antiterroriste. Verdict rendu le 29 juin. Et pour en débattre dans ce studio ce soir, Marie-Virginie Klein, conseillère en communication. Bonsoir Marie-Virginie.
Bonsoir.
Merci d'être là. Et puis Jean-Yves Le Borgne, avocat. Pénaliste.
Bonsoir.
Bonsoir, mais je vous tourne vers vous directement, cher maître. Le grand pénaliste que vous avez été à plaider et que vous êtes toujours plus de 150 fois aux assises, je crois. Un réquisitoire de 15 heures porté par 3 avocats, 15 heures pour résumer 4 ans et demi d'instruction, 9 mois d'audience pour reconstruire la mécanique de ces attentats les plus meurtriers de l'histoire. Est-ce que cette plaidoirie va faire date? J'ai envie de dire oui, mais elle a été remarquable.
Mais vous savez, je pense que ce procès est une manière d'abord de montrer aux victimes à quel point notre société prend en compte la tragédie que leurs proches ou eux-mêmes ont pu traverser. Et indiscutablement, d'une manière unanime, je n'ai pas entendu directement les réquisitions, mais l'écho que j'en ai me laisse à penser que c'est un travail extraordinairement sérieux, précis. Et puis, le caractère respectable de toute l'opération. Je ne parle pas seulement des réquisitions, qui le sont tout autant, mais du procès dans son ensemble, dans tous ces mois, avec ces magistrats qui sont allés jusque dans le détail de ce qui s'est passé.
Précision chirurgicale.
Oui, mais si vous voulez, c'est un peu, au fond, le grand contraste entre la violence brutale, élémentaire, instantanée, et la démocratie qui analyse, qui soupèse, qui fait des nuances. Et le réquisitoire a d'ailleurs introduit un certain nombre de nuances.
Effectivement. Marie-Virginie Klein, l'un des moments marquants de ce réquisitoire, ce sont les mots de Camille Hentier, avocat général, sur la réinsertion impossible de certains accusés. Elle est dit « Lorsque le fanatisme a gangréné un cerveau, la maladie est presque incurable. Que répondre à un homme qui vous dit qu'il aime mieux obéir à Dieu qu'aux hommes et qui, en conséquence, est sûr de mériter le ciel en vous égorgeant ?» C'est fort. Voilà,
j'ai l'impression que dans cette séquence, c'est justement Camille Hentier qui devient une des figures autour desquelles on se tourne tous. Elle a eu plusieurs citations très fortes. Là, je crois qu'elle citait Voltaire.
Absolument, c'était Voltaire.
Elle citait Voltaire et elle a ce don, et je pense que c'est le don des avocats, de mettre des mots sur des sentiments qui remontent à la surface, qui nous semblent tous incompréhensibles, et de mettre des mots pour nous faire comprendre. C'est-à-dire là, si on se met à citer Nietzsche après Voltaire, ne pas rire, ne pas pleurer, comprendre. Et je pense que cette séquence qui reste dans quelque chose d'extrêmement émotionnel pour nous tous, qui fait remonter ces attentats les plus horribles, je crois, que la France ait connu. Et bien finalement, on passe de l'émotion pure à la compréhension, je dirais pas du tout à l'apaisement, puisque je pense que c'est des plaies qui s'apaisent jamais, mais en tout cas on prend du recul et on se dit que justice peut quand même être faite, même si les morts ne reviendront pas à la vie, la justice sera quand même faite.
Précision, exhaustivité, sobriété. Camille Hentier, Nicolas Braconnet, Nicolas Lebris, voilà les trois avocats généraux qui sont sur ce procès. La peine la plus lourde et sans surprise a été demandée à l'encontre du seul membre encore en vie des commandos, donc Salah Abdeslam. La réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté incompressible compte tenu de l'immense gravité des faits. C'est une sanction rarissime quand même.
C'est une sanction qui est très exceptionnellement prononcée du fait de son caractère extraordinairement dur. C'est-à-dire qu'on entend ici ou là, oui, la perpétuité, c'est 20 et quelques années. C'est vrai, il y a une moyenne qui doit se situer aux alentours de 23-25 ans de détention réelle. Là, c'est la perpétuité réelle. Et au fond, c'est l'écho dans l'esprit de cette magistrate que vous citiez tout à l'heure qui dit qu'au fond, quand on est à ce point pénétré par une idéologie de la violence et de la brutalité, on ne peut pas espérer qu'il y ait une manière de revenir à des critères et à un mode de vie qui soit le nôtre. Au fond, c'était dans la logique des choses que le désespoir qu'elle mettait dans le regard qu'elle portait sur cet homme, je n'ai pas à dire si elle a raison ou tort, je ne veux pas m'immiscer dans une position que je n'ai pas dans ce procès, elle est au fond ce qui appelait la réquisition de réclusion criminelle incompressible.
Ouais, sanction rarissime, je le disais, n'a été prononcée qu'à 4 reprises depuis son instauration en 1994. Vous, le réquisitoire, évidemment... ne vous a pas surpris? Enfin, on a presque banalisé cette réclusion criminelle à perpétuité qui ne s'ouvre à rien.
Oui, et ce qui m'a surpris peut-être, c'est la défense fragile du coup de Salah Abdeslam, enfin en tout cas qui a été commentée comme fragile, puisqu'il a voulu en fait se sortir lui-même du conflit en ne se présentant que comme un invité à un projet beaucoup plus général. J'ai l'impression que pendant toute cette séquence, ses arguments ont été démontés un à un et ne lui laissant absolument plus aucun crédit, et que cette position de se déresponsabiliser, qui est, j'imagine, je parle sous le contrôle du maître que nous avons autour du plateau, une stratégie quand même classique quand on essaye de défendre l'indéfendable. Enfin, c'est intéressant de savoir comment on peut défendre aussi, c'est un autre sujet.
Rien n'est indéfendable.
Rien n'est indéfendable.
Défendre n'est jamais approuvé, d'ailleurs.
Oui, vous savez de quoi vous parlez.
Bien sûr. Mais il n'y a pas de solidarité entre l'avocat et l'acte de son client. Et je pense même que pour les jeunes avocats qui ont été commis d'office pour la plupart d'entre eux aux côtés de ceux qui comparaissaient dans ce procès, il y a une sorte d'héroïsme à devoir défendre, d'abord à contre-courant de l'opinion publique, parce que je ne suis pas sûr que dire qu'on est l'avocat du grand terroriste, ça soit plaise beaucoup auprès du cercle d'amis qu'on a. Mais justement, vous savez, il y avait le titre d'un livre d'ailleurs est presque une règle de conduite professionnelle, les défendre tous, quoi qu'il en soit, quoi qu'ils aient fait.
En attendant, évidemment, on suivra ce procès jusqu'au bout. Je vous l'ai dit, le verdict est attendu le 29 juin. Allez, on s'en va en Ukraine maintenant. Je vais vous entendre sur le conflit. On est au 108e jour de conflit. Et comment est-ce qu'il faut analyser, selon vous, la stratégie diplomatique d'Emmanuel Macron, qui d'un côté envisage l'envoi de nouvelles armes à l'Ukraine, des armes lourdes, après les canons César, et qui de l'autre déclare qu'il ne faut pas humilier la Russie. Maintenir le dialogue avec justement Vladimir Poutine, c'est aussi la position de l'ex-chancelière Angela Merkel et du président sénégalais Macky Sall. Qu'en pensez-vous?
Moi, je souscris tout à fait à cette position d'équilibre. C'est entrer dans un conflit avec passion, s'installer dans un manichéisme en disant « vous, vous êtes le bien, vous, vous êtes le mal ». C'est une manière de se priver, de s'interdire, de débuter un dialogue avec celui qu'on a voué aux gémonies d'une manière définitive. Je pense que depuis le début, le président de la République veut que la voix de la France soit entendu. Alors ça, c'est intéressant, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on peut parler aux deux belligérants, on peut faire avancer les choses.
Il passe beaucoup de temps au téléphone pour l'instant. Il n'est pas encore allé à Kiev depuis bien longtemps, d'ailleurs.
Je pense aussi que le fait qu'il ne soit pas allé à Kiev, encore que, si j'ai bien vu, il est annoncé très récemment qu'il envisageait peut-être y aller sans tarder. Mais je pense aussi que c'est une manière de vouloir rester... Je ne dirais pas neutre, parce qu'il est clair qu'on a déclaré, et je pense que c'est un peu dans tous les esprits, qui est l'agressé et qui est l'agresseur. Mais indépendamment de cela, si l'on veut pouvoir parler aux Russes, il ne faut pas commencer par les injurier. Et puis, au-delà de cette guerre, qui nous place dans une situation où, bien sûr, il faut choisir le camp du bien, il faut se rappeler que l'Europe, c'était, et c'est toujours, de l'Atlantique à l'Oural.
Oui, d'ailleurs, la présidence de l'Europe va changer, hein, l'Union européenne. À partir du 1er juillet, ce sera la République tchèque qui prendra la présidence. Marie-Virginie Klein, sur la posture justement d'Emmanuel Macron et ce vocabulaire qui peut choquer, hein, ne pas humilier la Russie.
Oui, moi j'ai le sentiment qu'il essaye maintenant de clore cette séquence de il ne faut pas humilier la Russie, en envoyant maintenant des signaux qui sont beaucoup plus qui montrent qu'il durcit beaucoup plus le ton.
C'est-à-dire
alors d'abord son engagement pour le déblocage du port d'Odessa, oui. Ça c'est un premier signal à mon avis qui montre quand même qu'il veut s'engager, qu'il veut prendre part, parce que en disant qu'il faut pas humilier, on peut aussi lui reprocher qu'il faut pas trop s'engager finalement. Et l'autre signal, c'est si effectivement il fait son déplacement à Kiev la semaine prochaine, qui n'est pas confirmé, mais quand même, il se déplace tout autour de l'Ukraine. Donc, on se dit qu'il va peut-être finir par aller à Kiev. Si vraiment il fait ce déplacement, pour moi, quand même, la diplomatie, c'est une affaire de symbole. S'il se déplace, ce n'est pas une humiliation, bien sûr que non, mais c'est un acte beaucoup plus engagé que ceux qu'il a pu avoir aujourd'hui pour l'Ukraine. Et donc, moi, je pense que d'une certaine façon, c'est une façon de regretter ces propos qui ont effectivement quand même...
très maladroits et très mal reçus.
Oui, qui ont créé une polémique immense sur ne pas humilier la Russie.
Oui, mais
même si on peut comprendre. Hein, mais...
on aime le manichéisme et tout, beaucoup d'interlocuteurs, lorsque vous êtes un peu pour l'un et un peu contre l'autre, mais un peu aussi...
On est dans le « en même temps ».
Mais
oui.
Oui, mais c'est pas seulement le « en même temps » qui, évidemment... porte une signature, presque un sceau de propriété intellectuelle. Je pense que si la diplomatie, c'est précisément la considération de l'autre. Et puis, n'oubliez pas qu'il y a quelques jours, la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, était à Kiev. Et que le précédent ministre des Affaires étrangères n'y était jamais allé. Là aussi, on voit une manifestation de considération. Mais je pense que du côté ukrainien, personne ne se trompe sur la sympathie de la France. Mais la sympathie, je dirais que c'est un luxe privé. Quand on est dans la diplomatie... il ne s'agit pas de répondre à ses sentiments, il faut penser à l'équilibre du monde.
Et donc, il faut avoir une position un peu claire. Et moi, ce qui me gêne un tout petit peu, c'est le manque de lisibilité sur la position. Parce que,
voilà, c'est ce que je disais,
vis-à-vis
vous voulez
de
du manichéisme.
Oui, un petit peu. Moi, la Française de base que je suis, veut comprendre la position de la France, clairement, vis-à-vis de ce conflit. Parce que j'ai l'impression qu'en faisant un pas... Bien sûr que c'est de la diplomatie, mais en faisant un pas en avant, un pas en arrière, puis un pas en avant vers l'Ukraine, finalement, est-ce qu'on s'engage vraiment d'une partie ou d'une autre vers ce conflit en ne voulant vexer personne? J'ai l'impression que voilà, la Russie ne prend pas forcément toutes ces délicatesses.
Je ne partage pas votre avis. Il n'y a pas de pas en avant et de pas en arrière. Il y a des positions claires qui sont bien entendu de solidarité avec le peuple ukrainien qui est le peuple agressé, et il y a l'idée que si l'on peut faire avancer les choses, c'est en faisant en sorte que les belligérants d'aujourd'hui soient demain autour d'une table. Et si l'on est placé déjà dans un camp...
Une table de 4 mètres de long.
Il faut indiscutablement pouvoir parler aux Russes. Et puis vous savez, il y a les Russes d'aujourd'hui, il y a la situation qui est ce qu'elle est, et puis il y a la Russie éternelle dont je rappelais tout à l'heure qu'elle fait partie de l'Europe et que si aujourd'hui elle s'égare, il serait bon qu'elle pense demain que nous n'avons jamais cessé de la regarder avec une certaine sympathie malgré ses erreurs.
En attendant, la France passera le 1er juillet prochain le relais à la République tchèque pour la présidence du Conseil européen. Elle a été parmi les premiers pays de l'OTAN à livrer des armes à l'Ukraine, faut-il le rappeler, d'anciens chars soviétiques d'ailleurs, pour la petite histoire. Est-ce que le positionnement de l'Europe vis-à-vis de Poutine peut bouger avec ce changement de présidence ?
Écoutez, moi, je ne lis pas dans le marc de café, mais quand on parle d'un pays qui faisait partie de l'Europe de l'Est et qui était du mauvais côté du rideau de fer, je pense que la situation de l'Ukraine réveille un certain nombre de souffrances anciennes qui ont peut-être été oubliées, surtout par la nouvelle génération, oui. Parce qu'il y a longtemps que le rideau de fer est tombé, mais qui néanmoins signifie quelque chose. Et probablement que ce manichéisme que vous appeliez de vos voeux va se manifester à travers cette présidence européenne. Je maintiens que la diplomatie est dans la distance et dans l'équilibre.
Allez, on verra bien. On suivra évidemment ce feuilleton, en tout cas ce conflit qui s'enlise 108e jour de guerre, je le rappelle, entre l'Ukraine et la Russie. Allez, on est toujours dans le studio d'Europe Soir Week-end avec Marie-Virginie Klein, conseillère en communication, et Jean-Yves Le Borgne, avocat. Alors, cela ne vous a pas échappé. C'est un Donald Trump présumé responsable d'avoir fomenté un coup d'État il y a un an et demi qui a fait l'actualité aussi cette semaine en incitant les insurgés à envahir le Capitole à Washington. Alors, est-ce que c'est un événement historique? Est-ce qu'on va trop loin en parlant de coup d'État, Marie-Virginie Klein?
Moi, je ne pense pas qu'on va trop loin, parce que Donald
fort,
Trump,
enfin,
lui,
le symbole est très fort.
C'est un symbole énorme, mais ce qu'on découvre là avec la remise des résultats de l'enquête, c'est quand même qu'il avait fomenté un coup d'État dessiné en 4 ou 7 étapes pour faire basculer le gouvernement Joe Biden. Donc c'est quand même absolument monumental. Et donc oui, quand on veut renverser un pouvoir, il n'y a pas d'autre mot pour le dire qu'un coup d'État. Et les scènes auxquelles on a assisté là pendant le développement des résultats de cette enquête, oui, elles sont absolument
alors
incroyables.
Les vidéos étaient pièces à conviction d'ailleurs au cours de cette commission d'enquête qui a duré plusieurs semaines. Il y a eu 5 morts, faut-il le rappeler, 138 policiers blessés, 700 personnes inculpées. C'était le 6 janvier juste après la défaite de Donald Trump. Jean-Yves Le Borgne.
Ben, je veux dire, je ne sais pas si on est vraiment dans un processus de coup d'État. L'histoire le dira, je n'en suis pas sûr. En revanche...
Très actif sur les réseaux sociaux aussi à ce moment-là. Et donc,
c'était le relais précisément pour mettre de l'huile sur le feu.
Et attiser la violence, qu'il a dit que l'élection de Donald Trump était un vol. Enfin, je veux dire, quand on ne reconnaît pas une élection et qu'on met en œuvre en plus des actions comme celle au Capitole pour renverser le pouvoir en place, c'est quand même... pas un coup d'État, mais une tentative de coup d'État.
Était-ce la finalité véritablement arrêtée, organisée? J'en suis pas sûr. Maintenant, je ne vous contrarierai pas sur le caractère peu exemplaire en termes de démocratie de Donald Trump. Et voyez-vous, cet appel à la violence, finalement, surtout s'il ne s'inscrit pas dans un processus concerté et organisé de coup d'État, s'il est un peu irrationnel, un peu sans finalité précise, c'est l'expression physique de la simplicité, pour ne pas prendre un mot plus dur, du populisme. Lorsque l'on est finalement un peu un ennemi des idées et qu'on est une sorte de chantre de la violence et du mouvement spontané, eh ben ça aboutit à ça. Ça aboutit à une protestation verbale, à un appel à la violence. Au fond, la parole. On en parlait tout à l'heure à propos du procès des attentats.
Du Bataclan,
La parole, la discussion, l'échange de points de vue, ce que nous faisons aujourd'hui même à l'instant, c'est le symbole même de la démocratie. Quand on est dans la violence, on est nécessairement dans autre chose.
Et ce combat, il était porté, Marie-Virginie Klein, par la fille de Dick Cheney, l'ancien vice-président de George W. Bush, qui est élue républicaine, honnie évidemment par Donald Trump, et membre de cette commission qui en a fait finalement le combat décisif de sa vie politique.
Oui, et puis... Quel est l'objectif final de ces travaux? C'est bien de faire condamner Donald Trump par l'opinion publique. Juste pour se remettre dans le contexte là, en ce moment de l'opinion publique aux États-Unis, on est dans un contexte d'une division absolument totale.
Les mid-termes sont très intéressants.
Les mid-termes vont être extrêmement intéressantes, puisqu'il y a quand même 75% des républicains qui estiment que l'élection de Joe Biden a été volée. Donc on est quand même dans un truc. Et c'est-à-dire qu'on est dans une Amérique qui est totalement divisé sur des sujets ultra stratégiques comme les armes à feu, la santé, l'avortement. On est face à deux camps qui, vraiment, là, ne débattent pas. Je pense que le débat qu'on a ce soir serait pas possible aux États-Unis, en tout cas pas dans des termes cordiaux. Et donc, on est quand même, les résultats de ces travaux interviennent avant les mid-termes qui sont en novembre. Et donc, elles sont là pour enlever tout crédit à Donald Trump. Et visiblement, ça n'imprimera que ceux qui voudront bien l'entendre, puisqu'on est dans un état des lieux où on ne se parle pas, où les républicains, les démocrates ne peuvent plus communiquer les uns avec les autres.
Non, mais je crois que vous avez entièrement raison. Cette absence de parole a aussi un problème, c'est qu'il y a une partie de la population, hélas, probablement pas seulement aux États-Unis, qui n'a pas envie du discours, qui n'aime pas la dialectique, qui veut des choses brutes et simples. Je ne citerai pas de nom, surtout dans cette période où les campagnes électorales sont closes. Mais nous avons aussi chez nous des leaders qui préfèrent le slogan à l'analyse. Oui. C'est un peu ce que vous disiez à l'instant.
Question pour
sur
un champion, je pense qu'on a un petit peu deviné de qui vous parliez. Merci
moi,
beaucoup.
Je n'ai pas donné de nom, mais si vous insistez.
Merci Jean-Yves Le Borgne, merci beaucoup Marie-Virginie Klein.
Merci
pour cet échange palpitant ce soir dans Europe Soir Weekend. Et on continue évidemment, on se retrouve tout de suite pour la suite jusqu'à 20h. À tout de suite.